vous remercie d'être venu, d'avoir accepté de sacrifier le bassin d'Arcachon et les promenades au soleil. Moi, je reviens ici toujours avec une grande émotion, parce que c'était un de mes endroits de pèlerinage lorsque je revenais de Tivoli pour aller cours Xavier Arnauzan. On faisait toujours les détours culturels par la librairie Mola, et je crois que la tradition ne s'est pas perdue, car en rentrant dans cette librairie il y a un instant, j'ai pu voir le succès que ça avait. Moi, j'avais l'habitude d'appeler la librairie Mola la première université de Bordeaux. Et je remercie donc M. Mola et son équipe de m'avoir invité pour vous parler de deux ouvrages. Initialement, ce roman intitulé « Secret de famille » et un autre qui est un tout petit peu plus austère, mais à mon avis très adapté à notre période, que j'appelle « Découvrez vos talents ». Quand on y réfléchit bien que ce soit deux sujets totalement différents, l'un est un essai, l'autre est un roman, ils relèvent de la même inspiration. Moi, je suis en effet frappé de voir le diagnostic erroné que l'on porte sur la situation actuelle, aussi bien sur le plan national que sur le plan mondial. Je n'accepte pas le courant de pessimisme qui envahit notre époque, car je pense au contraire que jamais le monde, et singulièrement la France, ne se sont jamais aussi bien portés et n'ont jamais eu autant de chance. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de géopolitique pour vous démontrer que les pays pauvres ont plus de chance qu'autrefois, et notamment grâce à une invention sur laquelle, à mon avis, on n'a pas encore assez insisté, parce que tout le monde sait qu'elle est en train de révolutionner notre vie quotidienne, puisque nous passons plus de temps maintenant à téléphoner à nos semblables qu'à lire le journal ou qu'à lire des livres. Les livres sont de plus en plus difficiles à écouler. Mais il faut quand même se rendre compte que cette découverte du numérique, et notamment du téléphone portable, est en train de révolutionner la planète. Moi, il se trouve que je continue de faire des missions dans un certain nombre de pays africains, des missions de coopération technique, et je suis très frappé de voir que les gens à qui je m'adresse sont aussi au courant que moi, et avec les ordinateurs, avec les cybercafés que l'on retrouve même au fin fond de la brousse, ils peuvent avoir un accès immédiat sur Google, sur Internet, et se rendre compte des progrès, des informations, et avoir de la communication. C'est à mon avis une chance exceptionnelle. J'ai personnellement calculé que le PIB ou le PNB mondial, sa croissance est redevable de un demi-point de cette invention, à cause du temps que l'on gagne, des informations que l'on obtient, des commandes que l'on peut obtenir, et en même temps de l'éducation, parce que ça n'est pas uniquement des informations, c'est souvent, on apprend par ces systèmes toute une série de données qui valent le coup. D'ailleurs, on en a un peu la preuve aujourd'hui, puisque beaucoup de gens ne se sont pas déplacés aussi, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir accéder aux données que nous allons avoir par Internet. Donc, je pense que le monde ne s'est jamais aussi bien porté. Je fais une parenthèse sur le numérique et sur Internet, mais également sur le plan alimentaire, sur le plan de la croissance économique. Si on fait les statistiques, on s'aperçoit que les seuils de pauvreté étaient beaucoup plus importants quantitativement il y a quelques années, et que les choses sont en train de s'améliorer et d'aller dans le bon sens. Alors, je sais bien que tout ça est très inégalitaire. Il y a un certain nombre de pays qui en profitent davantage que d'autres. Vous savez qu'on a fait la découverte il y a une dizaine d'années de ce qu'on appelait les BRICS, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui sont en train de porter le monde, alors d'une manière inégale, bien sûr, puisque le Brésil et la Chine s'en sortent très bien, la Russie avec des hauts et des bas, et peut-être un petit peu moins, et en ce qui concerne l'Inde, il y a aussi des aléas, mais je pense que l'avenir de l'Inde sera immense et que ce sera un des pays qui traînera le monde derrière lui et qui assurera son expansion. C'est la raison pour laquelle moi j'étais à la fois admiratif du succès du livre de Stéphane Hessel qui s'appelle « Indignez-vous », et que je connais personnellement depuis très longtemps et qui est un personnage tout à fait remarquable et admirable, et il n'est pas question ici de dire du mal de lui, mais je pense que c'est très exagéré de critiquer, c'est accentué par les médias, c'est accentué par les intellectuels, je pense que la réalité, elle est beaucoup plus optimiste que vient le dire Stéphane Hessel. Et c'est donc pour cela que j'ai répondu à cette indignation et cette interjection par un petit pamphlet que j'ai écrit moi-même et que j'ai appelé « Découvrez vos talents » et dont le sous-titre est « Après l'indignation, l'action ». Mais nous allons y revenir car je pense encore une fois que le monde ne va pas si mal que cela malgré le pessimisme ambiant qui nous entoure. Alors, pourquoi j'ai dit que ces deux livres sont liés, puisque beaucoup sont venus ici pour m'écouter parler de secrets de famille, c'est parce que secrets de famille est justement l'illustration de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que du temps de ma jeunesse et même de ma petite enfance, il y avait effectivement de vraies raisons, et j'ai autour de moi quelques personnes qui sont mes contemporains, qui donc ont vécu les mêmes expériences que moi, il y avait à ce moment-là des raisons de désespérer. Alors, je ne vais pas faire du misérabilisme et je ne vais pas jouer à la causette, mais c'est vrai que lorsque je suis né, nous étions entre les deux guerres, il y avait un taux d'expansion qui était complètement nul. Alors, vous savez qu'on se plaint beaucoup que la France, l'Europe, a un taux d'expansion qui ne dépasse pas trop les 1%. Il faut rappeler les vrais chiffres. De 1920 à 1940, le taux d'expansion de la France était zéro. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune croissance. Un encéphalogramme plat. Quand vous avez 20 ans consécutifs où vous n'avez aucune croissance, ben, le résultat, il a été très clair. C'est que les familles ne faisaient moins d'enfants. Le seul moyen de s'en sortir, c'était la démographie. Et la démographie a été catastrophique. Vous savez que le boom démographique n'est intervenu que tout de suite après la guerre, avec un certain nombre de mesures de relance. Comme disait le général de Gaulle, il faut faire des enfants sur une grande échelle. Et les humoristes l'avaient montré en train de se casser la figure dans une position acrobatique. Toujours est-il que la France, à ce moment-là, était dans une situation absolument catastrophique sur le plan économique d'abord. Elle l'était aussi sur le plan idéologique, puisque nous avions un voisin qui était l'Allemagne, que l'on avait, à mon sens, beaucoup trop humilié par le traité de Versailles, en faisant des découpages européens qui étaient absurdes et qui avaient été imposés par les Américains qui n'y connaissaient rien et qui ne savaient pas que la Tchécoslovaquie, il y avait plusieurs tendances et plusieurs ethnies, et que le découpage était mauvais et tout à l'avenant. Et la montée des périls, la montée du nazisme, on le sentait venir, et notamment, très singulièrement, à partir du moment où Hitler est arrivé au pouvoir et où ma génération, puisque je suis né si j'ose m'exprimer ainsi, avec Hitler. Et ce n'est pratiquement l'année où Hitler a accédé au pouvoir. C'était des choses que l'on ressentait très, très, très durement et très cruellement. Donc, j'ai fait un livre de souvenirs sur la drôle de guerre, qui a été résumé dans la petite invitation qui vous a été adressée, où j'ai raconté comment j'avais vécu tout cela, et notamment à Bordeaux, puisque j'ai fait mes études secondaires à Bordeaux, à Tivoli, tout de suite après la guerre, qui était quand même, à ce moment-là, plus respirable. J'ai considéré que, dans ma vie, parce que je suis à une époque où j'ai un peu envie de raconter mes souvenirs, j'y reviendrai tout à l'heure sur la biographie, je n'écrirai pas un livre de souvenirs, ça peut être un peu ennuyeux. J'ai considéré que, outre cette opposition entre la France et l'Allemagne, qui était absolument catastrophique à cette époque que je viens de vous décrire, il y avait un deuxième phénomène, moi qui m'a marqué et qui me crucifie également, bien qu'il ne me touche pas du tout, c'était l'oppression doctrinale et physique dans l'Europe de l'Est, qui avait été coupée malheureusement par le traité de Yalta, et qui fait que lorsque je me promenais dans un certain nombre de ces pays, et singulièrement en Russie, où j'allais régulièrement du fait de mes fonctions, j'étais très frappé de voir que vous aviez des millions, parce que c'était effectivement des millions, aussi bien les gens de l'Europe de l'Est que les Russes, des millions de personnes dont l'avenir était bouché, était condamné. Et cela depuis 1917, depuis l'implantation des soviets et du communisme. Et moi, j'étais très torturé et crucifié par cette injustice que, je ne sais pas pourquoi, j'avais assimilé à ce qui aurait pu nous arriver si les Français avaient été, s'il n'y avait pas eu le miracle de l'Amérique venant à notre secours, s'il n'y avait pas eu d'autres miracles de l'effondrement allemand, et aussi la reconstruction de l'Europe, à laquelle j'ai participé, puisque j'ai écrit 5 ouvrages sur l'Europe, et ça a été véritablement pour moi, quand j'étais à Bordeaux, notamment à cette époque où on avait créé le mouvement européen, j'ai pensé qu'il y avait une très très grande injustice qui était en train de se passer. Et pour moi, l'effondrement du mur de Berlin en 1989 a été une espèce de libération, bien que ça ne me touche pas en propre, mais je disais qu'il y avait, vous souvenez la phrase du général de Gaulle qui disait « l'Europe de l'Atlantique à l'Oural », et moi j'épousais cette thèse en me disant que l'Europe ne pourrait jamais se développer si il n'y avait pas un jour une libération de ce bloc oriental. Et cette libération, je l'ai vécue, si j'ose dire, mois par mois, année par année, à partir de 1989, avec ce qu'on a appelé la perestroïka. Il se trouve que le hasard des circonstances, des missions que j'ai eu à faire, des visites que j'ai faites aussi bien à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg, m'ont amené à découvrir des gens que j'ai trouvés très proches de moi, ayant la même culture, car je pense, si vous voulez, qu'il y a beaucoup plus de différences entre, disons, un grand auteur, Hemingway, qu'entre Victor Hugo et Dostoïevski. Nous sommes de la même école, nous sommes de la même race et nous pensons la même chose. Et c'est très frappant de voir comment tous ces gens qui ont été écartés de nous pendant plusieurs générations sont finalement Alors, il y a une image, une mauvaise image des Russes, quelles que soient leurs origines, mais je considère que c'est aussi une des chances de la France, une des chances de l'Europe, d'avoir ces personnes qui sont maintenant nos alliés, proches de nous, bien sûr, ils sont assez ils n'ont pas les mêmes réactions et les mêmes comportements, mais je pense que ces deux phénomènes, de la menace hitlérienne et de l'oppression marxiste, ont été, pour ma génération, quelque chose d'abominable, et j'ai été heureux de voir que ces menaces étaient maintenant derrière nous et avaient disparu. Et c'est pour ça que je considère que notre époque, elle est bien meilleure. Alors, tout ça pour vous dire que c'est à partir de ces deux événements que j'ai construit un roman. Alors, je ne voulais pas faire un traité de géopolitique, comme je viens de vous le faire d'une manière un peu ennuyeuse à l'instant. J'ai voulu le romancer et imaginer une histoire. Alors cette histoire, elle se passe en deux temps. Je raconte ma vie d'enfant et de jeune et d'étudiant. Et puis je raconte l'aventure de mon père qui s'engage, alors c'est purement de la fiction, je vous le signale, qui s'engage dans le régiment Normandie-Niémen parce qu'il était aviateur, ça c'était vrai. Mais il n'a jamais été engagé dans le régiment Normandie-Niémen. Je connais en revanche des gens, il y a un ou deux survivants de ce régiment, dont un monsieur que je rencontre de temps en temps, bien qu'il ait dépassé largement les 90 ans, qui s'appelle Roland de la Poippe, qui était un héros de cette épopée, qui a été un peu mon modèle, que j'ai fait comme si c'était mon père. Roland de la Poippe a été couvert de décorations. Vous savez que les gens du régiment Normandie-Niémen ont été autorisés par les Russes à ramener leurs avions russes à Paris, au Bourget, en 1945, ce qui était vraiment une prouesse et un don qu'a fait la Russie à la France. Et en même temps, des gens comme Roland de la Poippe ont abattu, il a son actif, près d'une centaine d'avions allemands abattus. C'était vraiment des gens, c'était un courage absolument inimaginable. D'abord, ils étaient dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient des mécaniciens qui ne parlaient pas un mot de français. Ils avaient été formés sur des avions qu'ils avaient appris à piloter, mais qui n'étaient pas du tout les avions qu'ils avaient connus quand ils étaient en France. Et subitement, c'est devenu des héros qui décollaient tous les matins des bases russes et qui, au fur et à mesure que les Allemands repartaient et étaient refoulés, étaient pilonnés par ces aviateurs et les pilotes allemands étant eux-mêmes abattus grâce au courage et aux victoires de ces gens. Donc c'est ce que j'ai raconté dans ce roman. Et naturellement, 50 ans après, je dis naturellement parce que c'est purement mon imagination et mon invention, 50 ans après, une personne liée à ce que j'étais en train de vous raconter sur la perestroïka et que j'appelle une rescapée de la perestroïka redébarque dans mon univers d'enfance, dans ma propriété de Gascogne, puisque j'habite la Gascogne où j'élève du vin et où je cultive de la vigne. Elle débarque dans la Gascogne et elle redécouvre ma famille. Et c'est là que l'intrigue prend une tournée un peu particulière que je ne vais pas vous raconter parce que je peux vous dire que j'ai des témoignages pratiquement tous les jours et particulièrement et même encore ce matin en quittant Paris, j'ai lu une lettre d'un grand écrivain français qui s'appelle Jeannine Boissard, qui est peut-être venue ici souvent parce qu'elle a publié déjà avec succès une cinquantaine de romans Et Jeannine Boissard m'a dit, ce que tout le monde me dit, c'est effectivement, je m'en excuse, on vous lit d'une manière haletante jusqu'au bout, mais une fois que l'on lit votre postface, c'est-à-dire que l'on apprend ce qui est vrai et ce qui est faux dans votre roman, on est un peu déçu. Vous nous avez piégés et c'est quelque chose qu'on a un peu de mal à vous pardonner. Bon, alors je m'en excuse d'avance vis-à-vis de ceux qui ont lu mon livre. Alors je dois le dire que c'est simplement parce que mes parents n'étaient pas du tout le modèle de ce que j'ai décrit dans ce roman. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ça m'est venu et avoir décidé que c'était mes parents qui étaient les héros de cette épopée. Mes parents ont une vie tout ce qu'il y a de plus normal, raisonnable. Mon père n'a jamais été un pilote de Normandie-Niémen et mon père n'a jamais quitté ma mère en quoi que ce soit. Et l'autre jour, un journaliste de Sud-Ouest qui m'avait interviewé, qui a elle-même été très très déçue d'avoir été piégée, enfin déçue entre guillemets, d'avoir été piégée de la sorte, m'a dit ce que je prends comme un compliment. Elle m'a dit, mais en ayant passé un long moment avec vous d'interview, il y avait quelque chose, quand je lisais votre livre, qui ne collait pas avec votre personnalité. Parce que vous avez l'air d'être quelqu'un de plutôt à l'aise dans les rapports avec les individus. Vous avez l'air d'être assez à l'aise avec votre famille, vos enfants. Je suis marié, comme beaucoup d'entre nous dans cette salle, depuis 50 ans. Et elle m'a dit que ce n'était pas du tout cohérent avec un orphelin, puisque je suis dans ce roman, soi-disant un orphelin, dont le père est mort sur le front de la Bérézina, qui était la Bérézina 200 ans après, presque 200 ans après, en tout cas 150 ans. Et elle m'a dit, il y a quelque chose qui ne collait pas. Effectivement, il y a quelque chose qui ne colle pas, puisque c'est le domaine de la fiction. Et c'est un sujet dont je me suis entretenu pas plus tard qu'hier avec Jean Lacouture. Jean Lacouture, qui est un Bordelais, qui est tout à fait un homme admirable, pour lequel j'ai une très grande estime, et dont je vais publier, à l'issue d'un certain nombre d'interviews que j'ai fait mener, sans doute son dernier livre. Il a plus de 90 ans, en plus il a eu un petit pépin de santé au mois de janvier, donc ça a failli compromettre ce projet. Mais moi, je fais partie des gens qui, comme vous allez le voir dans un instant, est une admiration sans borne pour la culture bordelaise et dont j'estime que Jean Lacouture est un des grands héros, R-A-U-T, et qu'il l'illustre particulièrement bien. Et Jean Lacouture me dit, j'ai jamais pu, il a beaucoup aimé mon livre sur Secret de famille, et il me dit, personnellement, je vous admire d'autant plus, enfin, c'est entre guillemets, c'est un peu immodeste de ma part de le citer comme ça, que j'ai essayé d'écrire ma vie. Vous savez qu'il a eu une vie très admirable avec une grande journaliste qui s'appelait Simone, qui est morte il y a deux ans, morte il y a deux ans. Et Jean Lacouture me dit, j'ai essayé à de multiples reprises d'écrire un roman, parce que dans tous les romans, il y a une partie très forte d'autobiographie, et je n'y suis jamais arrivé. C'est pour cela que c'est devenu le plus grand biographe des autres des 50 dernières années. Jean Lacouture, comme vous le savez, a écrit près de 100 livres, même peut-être plus, dont des bibles qui sont tout à fait admirables sur Malraux, sur De Gaulle, sur Mao Tse-Tung, sur Mitran, bien sûr, et surtout sur ces trois M, sur lesquels je vais peut-être terminer. C'est troisième que, tout à fait par hasard, nous avions découvert ensemble, puisqu'il se trouve que la même année où il a commencé à faire le rapprochement entre ces trois Bordelais admirables que sont Montaigne, Montesquieu et Mauriac, J'écrivais moi-même dans un ouvrage qui s'appelle L'Aquitaine, qui a été publié aux éditions Sud-Ouest. J'écrivais une comparaison sur les trois M. Et lui, il en a fait un livre, il en a fait plusieurs d'ailleurs. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais terminer. Car en fait, c'est très intéressant d'analyser les personnalités de ces trois M pour essayer d'en tirer la quintessence de ce que j'appellerais l'esprit bordelais. Alors tout d'abord, il y a Montaigne. Alors Montaigne, quand vous faites un peu le tour du monde, parce que c'est un des philosophes français qui est le plus connu, vous avez un paradoxe exceptionnel. Montaigne, quand on y réfléchit, il a écrit un seul livre, qu'il a appelé « Les Essais ». Bon, il l'a refait sans arrêt, puisqu'il y a eu 10 éditions des Essais, mais il faut voir quelles étaient ses méthodes de travail. Il était dans sa petite tour là-bas, du côté de Saint-Émilion, que l'on visite et qui est admirable, puisqu'il y a toutes les devises latines dans sa tour ronde dans laquelle il s'isolait, tout en ayant été maire de Bordeaux, ce qui n'est entre nous pas tout à fait négligeable, ayant été un des grands amis d'Henri IV, puisqu'il l'a rencontré à deux reprises, et que surtout... C'est en 1586, je crois, après la bataille de Coutras, la victoire d'Henri IV à Coutras, qu'il était à quelques kilomètres du château de Kem, et je ne sais pas, il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de gens qui faisaient les liaisons à l'époque, mais enfin, en tout cas, toujours est-il que Montaigne fait dire à Henri IV qu'il veut le voir. Et Henri IV qui vient de remporter une victoire totalement inattendue, exceptionnelle, parce qu'il a en face de lui toute l'armée française, avec les deux plus grands chefs, et notamment Joyeuse, qui est un des plus grands généraux d'Henri III, et avec une petite poignée d'hommes et quelques cavaliers, il les défait. Il y a plusieurs dizaines de milliers de soldats français et des mercenaires aussi qui sont tués par les troupes d'Henri IV. Il prend plusieurs dizaines de fanions de régiments et il va d'ailleurs les porter à la maîtresse de l'époque qui était Corison d'Andouin, Madame de Gramont, donc une bonne gasconne qui lui avait financé ses campagnes, était éperdument amoureuse de lui, bien que étant veuve et ayant été marié, ayant des enfants, mais étant catholique, surtout, ce qui était quand même absolument exceptionnel. Donc, il faut dire que ce n'était pas tout à fait par hasard, parce que Montaigne avait dédicacé une partie des essais à Corison d'Andouin. Alors, Corison d'Andouin, moi, j'ai écrit beaucoup de biographies sur les maîtresses d'Henri IV, comme vous le savez, j'ai jamais très bien compris pourquoi elle avait séduit ces deux hommes. Parce qu'elle n'était pas belle, elle avait le teint couperosé, elle était plutôt épaisse. D'ailleurs, dans la dernière nuit qu'il a passée avec elle, qui s'est passée quelques jours après cette rencontre avec Montaigne, il écrit dans ses comptes rendus « Je l'ai trouvée grossie ». Alors, vous savez, quand vous trouvez votre maîtresse un peu grossie, ça veut dire que c'est le début de la fin. Donc, toujours est-il que Montaigne reçoit Henri IV et il lui dit « Maintenant, il faut arrêter. Ça devient sérieux. Vous êtes l'héritier du trône de France, puisqu'il n'y a plus d'héritier et Henri III n'aura pas d'enfant. La guerre, c'est très bien. Catherine de Médicis, qui ne vous supporte pas, mais qui vous a quand même fait épouser sa fille, avec qui vous avez très bien négocié, elle n'est pas éternelle. Effectivement, elle va mourir 2 ans après. Donc Montaigne a une certaine prémonition. Et il lui tient ce langage. Il ne lui dit pas sous cette forme, puisque c'est une forme un tout petit peu triviale. « Je monte à Paris dans 8 jours, je vais voir le roi et je vais vous réconcilier. » Et c'est ce qui se passera. Alors, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, parce qu'il y a après des états généraux à Blois qui se passent mal. Mais Henri III, il a mis ça dans sa tête et il s'est dit « Je vais... » Mon cousin, puisqu'ils étaient cousins, ils avaient été élevés ensemble, ils avaient le même âge, ils avaient fait le Tour de France ensemble, donc ils se connaissaient par cœur. Il s'était dit, c'est comme ça que ça va se terminer. Et donc, vous savez, quand on dit la France, ça va très mal, on ne sait pas pour qui on va voter demain, quels vont être les résultats des élections. Vous savez, la France, elle s'en sort toujours. Là, c'était véritablement le drame absolu. C'était la 7e guerre de religion. Il y avait 3 partis en France qui se déchiraient. Et en plus, le roi ne pouvait même plus, Henri III ne pouvait même plus vivre à Paris. Quand il s'est réconcilié avec Henri IV, il a reconquis Paris. D'ailleurs, vous en souvenez, Henri IV, il a été écarté de Paris pendant 4 ans. Donc, ce n'était pas négligeable. Henri III n'était pas été lui-même et ils se sont vus. Et quand Henri III a été assassiné, il a été assassiné à Saint-Cloud avec Henri IV quasiment à ses côtés. Et ils ne pouvaient plus rentrer dans leur capitale, ni l'un ni l'autre. Donc, Montaigne a été un homme totalement exceptionnel, qui était à la fois un homme d'État, le plus grand philosophe. Et comment il travaillait? Ben, tous les matins, il allait, et c'est ce que je dis à mes étudiants souvent, vous savez, le génie, ça n'existe pas. Mais faites comme Montaigne, lisez les autres, lisez les textes anciens, et vous allez vous apercevoir que, en ajoutant votre petit grain de sel progressivement, comme dans Découvrez vos talents, vous allez construire une œuvre. Elle ne sera peut-être pas aussi admirable que celle de Montaigne, mais elle sera également très utile. Alors le deuxième M, c'est Montesquieu. Alors Montesquieu, c'est aussi un phénomène, parce que Montesquieu, c'est un très grand juriste. C'est d'autant plus un juriste exceptionnel qu'il a inventé la seule théorie qui n'est pas démodée et qui n'existait pas avant lui, qui est la théorie de l'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire que c'est du bon sens. Quand vous donnez tout le pouvoir, il y avait un article de Ferry ce matin dans un journal que je ne citerai pas, qui faisait parler de la monarchie en disant que la République, quel que soit le titulaire du poste de la haute magistrature, que la République est monarchique, parce que vous faites une élection et cette élection donne tous les pouvoirs à un homme. Qui nomme les hauts fonctionnaires, qui décide qu'elle va être la présidente de l'Assemblée nationale en fonction des élections qui sont quasiment prédéterminées en fonction notamment du système actuel des quinquennats concomitants. Et Montesquieu a dit la seule chose qui est du bon sens et qui est vraie, si vous voulez la liberté, il faut l'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un pouvoir qui contrebalance et compense l'autre. S'il n'y a pas ça, nous sommes en dictature. Nous n'avons plus la liberté. Eh bien, c'est un Bordelais qui l'a inventé, et c'était très astucieux. Et pour montrer qu'il y a aussi, quand même, dans le caractère bordelais, quelque chose... Il a écrit des ouvrages très, très sérieux et très ennuyeux, genre Grandeur et décadence des Romains, etc. Mais bon, ça, je vous en fais... Je ne vous encourage pas forcément à les lire, mais le côté original du Bordelais, c'est que Montesquieu a écrit un ouvrage qui n'a jamais été égalé au monde et dans lequel il a également innové dans les lettres persanes. Les lettres persanes où il se moque à la fois des Français et il se moque des Orientaux. Et de nos jours, c'est particulièrement amusant, et moi en tant qu'éditeur, on me propose souvent des ouvrages de ce type, mais qui n'ont jamais ce niveau, parce que c'est très très difficile d'écrire quelque chose de profond et d'humoristique pour se moquer de notre pays, et en même temps, en faisant ressortir les petits côtés du narrateur, c'est-à-dire du persan qui débarque sur la planète France. Alors j'en arrive maintenant au troisième M, c'est-à-dire François Mauriac, sur lequel Jean Lacouture a écrit une magnifique biographie. Je crois que finalement, ils s'entendaient assez bien. D'abord, c'est vrai que Mauriac n'avait pas été élevé à Tivoli. Je crois qu'il avait été élevé à côté, à Grand-Lebrun. Heureusement que Frédé est là pour me rappeler quels sont les deux grands rivaux de l'époque. Lacouture a été élevé à Tivoli. Et il en parle, il m'en a parlé hier. J'ai passé plusieurs heures avec lui hier pour remettre au point son manuscrit. Qu'il appelle 80 ans autour du monde, ce qui est assez original et qui porte. Et donc Mauriac, lui, était quelqu'un qui est assez aussi caractéristique de cet esprit bordelais. Et j'en parle d'autant plus facilement que j'ai au Festival de Cannes, c'est mon 40e, donc je suis maintenant un habitué de ces endroits, et on a projeté, comme vous le savez, en dernière vision et en première mondiale, le Thérèse d'Esquerou, qui est un film qui n'est pas encore sorti, je crois qu'il n'est pas sorti, non, mais alors dès qu'il sort, précipitez-vous, c'est admirable, c'est bouleversant, les vues des Landes et les vues de l'Atlantique sont à couper le souffle, et moi qui venais de sortir de ces projections très dures, où moi j'ai appelé ce festival le désespoir des Limousines, parce qu'il y a deux films qui racontent la même histoire, de personnages qui sont emprisonnés dans les Limousines dans lesquelles ils font n'importe quoi et j'en passe et des meilleurs c'est abominable, enfin, cette inspiration moderne complètement déjantée s'agissant d'une automobile c'est tout à fait le cas quand vous arrivez vous avez un bain d'oxygène de retrouver Thérèse d'Esquerou. Alors effectivement Thérèse d'Esquerou c'était pas seulement des bonnes paroles. C'est un jour que je rencontrais François Mauriac, qui était d'ailleurs un grand ami du frère de ma mère, puisqu'ils avaient été au Sillon ensemble. Donc Michel Herrière-Dubreuil avait été un des cofondateurs du Sillon, avec François Mauriac en faisait partie. Et je lui avais dit un jour, quand même, vous ne décrivez pas toujours les situations les plus exaltantes, les plus admirables, etc. Alors, il m'avait répondu cette phrase dont je me souviendrai. Il me dit, il faut bien parler du péché si on veut parler de la grâce. Bon, c'était tout Mauriac, il fallait l'un et l'autre s'équilibrer. Donc, vous voyez que ce que j'ai voulu faire dans ces deux livres, mais je n'ai pas eu le temps de vous parler du deuxième, c'est une réconciliation de cet esprit bordelais, qui est, comme disait Montaigne, ondoyant et divers, et qui n'est compréhensible que si on a été élevé et bercé dans cette atmosphère dont, rappelez-vous, les Romains disaient que c'est le paradis du monde, et c'est d'autant plus le paradis que nous avons inventé grâce aussi aux Romains, mais enfin, on l'a tellement mis en valeur mieux que ce nectar qui fait fureur dans le monde entier et qui est en train, en ce moment, de bouleverser l'économie mondiale avec cette nouvelle bulle sur les grands crus, puisque moi, j'arrive de Chine, j'étais au Vinexpo d'Hong Kong, puisque vous savez que maintenant, on a un sur deux, la Vinexpo hors les murs, et que cette année, c'était à Hong Kong que ça se passait. Le fait d'être bordelais à Hong Kong, c'est véritablement la plus belle lettre de noblesse, et c'est ce dont je suis le plus fier, et de vous en avoir parlé ce soir. Merci.